France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Hamdi Ouloukaya, c'est le patron de la première entreprise au monde de yaourt grec. Il est américain, d'origine turque, enfin kurde, milliardaire, et tout ce que j'ai lu sur cet homme le désigne comme un dirigeant d'entreprise exemplaire. Il a 30 lignes de récompenses honorifiques sur Wikipédia. Il reverse une partie des dividendes de la société aux salariés, il emploie 30% de réfugiés qu'il aide à s'insérer et pour cela a reçu des menaces de mort de l'extrême droite américaine. Il fait des produits écologiquement durables, reverse la moitié de ses revenus personnels à des associations. Nulle part la moindre once de critique, sauf des extrémistes racistes. Est-ce vraiment possible ? Aujourd'hui, on se demande ce que c'est qu'un bon dirigeant d'entreprise, un patron sympa. Faut-il être juste, inclusif, paternaliste, social, discret dans ses bonnes œuvres ou encore faire passer l'intérêt de ses employés avant ceux de l'entreprise? Ou au contraire, identifier les intérêts des employés à ceux de l'entreprise? Être un bon patron, est-ce structurellement possible dans les modèles qui existent? Voici deux histoires et deux possibles réponses par Sophie Simoneau.
Jean-Yves Glumineau, j'ai 60 ans depuis peu. J'ai dirigé pendant 18 ans le groupe TIV en Vendée. Effectivement, on peut me considérer comme un patron sympa ou humaniste. Quand on a réussi ça, déjà, on dort tranquille. Pour moi, c'était clair dans ma tête, sorti de la troisième, je voulais un parcours très court pour rentrer dans la vie active. J'avais pour ambition de m'acheter une moto. Mon papa m'a dit, si tu veux t'acheter une moto, tu travailles et quand tu auras de l'argent, tu t'achèteras ta moto. Et ça, c'était ma priorité de l'époque. Alors l'entreprise que j'ai intégrée, donc à 17 ans et demi, on était une cinquantaine d'ouvriers dans un atelier de mécano-soudure, à se retrouver à la fin de la semaine avec sa cotte bleue quasiment noire de poussière de fer, c'était percer des trous toute la journée, quoi. Donc rien d'enrichissant particulièrement, quoi. Le chef avait décidé, donc fallait effectivement exécuter ce qu'il avait décidé. Mais quand je pensais avoir raison, je tentais le coup pour leur dire, ben regardez, on pourrait faire comme ça. Non, je t'ai dit de faire comme ça, tu fais comme ça. Bon, là, je ravalais ma salive et... Et c'est là où j'ai vu que, est-ce que j'étais fait pour exécuter les ordres? Ça posait question déjà. Pour moi, à l'époque, avec mes yeux neufs, hein, en fait, de jeunes adolescents qui commençaient dans la vie active, j'étais assez surpris des rapports qui existaient avec la hiérarchie, la manière dont un responsable, en fait, pouvait parler à un ouvrier, le manque de respect quelque part. Ils sont dans la même entreprise et on a l'impression qu'il y a une scission entre les deux, quoi. Et ça, ça me révoltait un peu, quoi. Je rêvais, en fait, d'une approche beaucoup plus équilibrée dans les rapports entre toutes les forces vives d'une entreprise. Donc, j'avais déjà une petite idée en tête à 24 ans. Je voulais être dirigeant d'entreprise. Et il a fallu que je patiente jusqu'à 42 ans, hein, pour trouver la bonne opportunité. Et j'ai repris une entreprise qui fabriquait du vitrage isolant. Dès que je suis devenu patron, j'ai pris le temps d'observer en fait le mode de fonctionnement de l'entreprise et tout de suite j'ai changé les règles. Je suis parti du principe pour que chacun s'investisse en fait au quotidien dans l'entreprise, faut leur indiquer quel est le projet de l'entreprise. Qu'est-ce que je veux faire de l'entreprise? Dans quelle situation est l'entreprise? Comment on veut la faire évoluer? Pourquoi on veut la faire évoluer? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme pierre à l'édifice pour qu'on puisse avancer tous ensemble? Dans une équipe, on a besoin de tout le monde. Quelles que soient les responsabilités qu'on a, chaque membre est essentiel et faut le considérer comme tel, quoi. Donc, tous les jours, je passais voir chaque collaborateur matin et après-midi, puisqu'on travaillait en 2-8, hein, donc c'était assez chronophage, mais je voulais absolument, effectivement, bien connaître en fait chaque membre de l'équipe, par leur prénom, leur nom, enfin bon, je connais leur famille également, et le fait de s'intéresser à eux, en fait, m'a permis de créer un climat de confiance qui aussi s'est institué par le tutoiement très rapidement. Je voulais pas faire peser de hiérarchie dans le mode d'échange dans l'entreprise. Ensuite, l'entreprise a grossi, on est passé de 60 collaborateurs à 180. Il était plus possible pour moi de les voir et les uns et les autres tous les jours. Donc, toutes les fins de mois, je donnais en fait à chaque collaborateur en main propre le bulletin de paye avec le journal interne. Donc ça me permettait effectivement de recollecter de l'information, de la repartager, de la faire redescendre, de redemander à un responsable d'une équipe, tiens en fait un tel m'a dit telle chose, tu surveilleras ça, tu feras attention ou tu lui apporteras des réponses. C'est un peu paternaliste, on peut l'appeler comme ça. Ma préoccupation depuis des années, c'était comment garder l'esprit de la PME à taille humaine alors qu'on allait continuer à grossir. Donc moi, je leur ai dit, si l'entreprise gagne, vous gagnerez plus. On a pu instaurer l'intéressement, ensuite on a pu instaurer la participation aux bénéfices. Donc ils ont vu que leur émolument, en fait, grossissait d'année en année. C'est ce qui a fait aussi qu'on les a fidélisés, hein. Durant 18 ans, on n'a pas connu de conflit social. Et on a eu très peu de turnover. Et bon nombre de clients ou de fournisseurs qui visitaient l'entreprise, et ils me disaient, les gens ont l'air d'être bien chez vous. Ben, j'ai dit, heureusement, moi, pour moi, ça doit être une évidence. Le rapport, en fait, entre le salaire moyen des salariés et le mien, c'est un rapport de 4,5. Donc bon, c'est loin de tout ce qu'on entend dans certaines activités. L'idée pour moi, c'était pas de m'enrichir en tant que patron, hein, c'était effectivement d'aboutir à un rêve de devenir en fait dirigeant d'entreprise. Et le travail de fond, il était de remettre l'entreprise sur les rails. En 2004, c'était une entreprise qui était déficitaire. Au bout de 18 ans, on avait multiplié par 5 le chiffre d'affaires et la rentabilité était au rendez-vous. Et en décembre dernier, suite à une proposition de rachat, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Donc j'ai rassemblé l'ensemble des collaborateurs dans l'usine pour leur annoncer mon départ et pour leur annoncer que je leur avais réservé une grosse surprise. Fort intérieur, c'est une réflexion qui m'animait déjà depuis longtemps. Je me suis dit, le jour où je quitterai l'entreprise, je céderai une partie du produit de la vente pour récompenser en fait l'ensemble des collaborateurs qui m'ont accompagné durant ces 18 années. Et donc j'ai rassemblé toute l'équipe, j'ai expliqué ce qui allait se passer, les choix qui ont été faits, et que j'allais me retirer d'ici peu, et que je leur avais réservé un pactole à partager. Et donc j'ai annoncé le don que je faisais de 2 680 000 euros à l'ensemble de l'équipe. J'aurais bien précisé que c'était pas pour chacun d'entre eux, mais que ça allait être partagé pour les 180 collaborateurs. Donc ça a détendu l'atmosphère, parce que effectivement ils étaient un petit peu surpris de l'annonce, et parler en millions d'euros, c'est des chiffres qu'ils ont pas l'habitude de brasser, quoi. Donc et je voyais ces perdus qui me regardaient, et ils étaient un peu tétanisés. Il y a pas eu de réaction immédiate. Il y avait des sourires interrogatifs, certains devaient se dire, mais on a bien compris ce qu'il nous a dit, donc j'ai répété les choses, puis effectivement, après, les langues se sont déliées, quoi. J'ai eu des témoignages très sympathiques, des retours, bon, il me dit, oui, mais c'est très fort pour eux, quoi. Donc, alors c'est simple, en fait, le calcul que j'ai fait, Sur les 18 années passées, j'ai repris les jours de présence, de travail effectif au sein de l'entreprise pour chaque collaborateur. Et je leur ai donné 10 euros par jour de travail. C'est ce qui fait qu'on est tombé sur la somme en cumul de 2 680 000 euros.
Donc ça allait de combien à combien, de la plus basse?
Les derniers collaborateurs qui ont été embauchés, en fait, ils ont eu 200 euros pour les plus récents, quoi. Et ils étaient même surpris. Ils disent, moi j'arrive et je touche 200 euros de prime en arrivant, quoi. J'ai dit, c'est la règle que j'ai déterminée. Donc la règle, elle est pour tout le monde la même, quoi. Et pour le plus vieux, ça fait 25 000 euros, quoi. Donc, c'est une somme qui est sympathique pour chacun d'entre eux, quoi. C'est atypique, on n'a pas vu ça. Enfin, c'est eux qui me disent, on a fait des recherches, on n'a pas trouvé de précédent. Moi, j'ai pas regardé, hein. Donc j'avais envie de le faire, je voulais le faire, je l'ai fait, quoi. Donc et ça m'a enrichi de l'avoir fait, paradoxalement. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, dans ce qui va me rester, j'aurai de quoi manger 3 fois par jour sans aucun souci pendant des années, quoi. Mes parents m'ont pas habitué à la profusion d'argent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans mon mode de vie, j'ai une maison, j'ai une résidence secondaire, je me fais plaisir. Quand je veux partir en voyage, je pars en voyage. Là, je viens de m'acheter une nouvelle moto. Enfin bon, j'ai déjà tout, quoi. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens d'avoir plusieurs millions d'euros sur un compte en banque qui va dormir. Alors que les 2,6 millions que j'ai donnés à tous les collaborateurs, je sais que les 25 000 euros ou les 200 euros, ils vont servir à chacun pour un projet donné, quoi. Il y en a qui disent que c'est de la générosité, il y en a qui disent que c'est de l'altruisme. Il y a un journaliste qui m'avait interrogé, il m'avait dit « qu'est-ce qu'en pensent vos collègues dirigeants d'entreprise ?» D'entrée de jeu, j'ai dit pour certains « quel con celui-là » Moi, je pense que c'est du bon sens. C'est une juste récompense par rapport au travail accompli, par rapport au partage qui me semble être utile dans les temps qui courent. Aujourd'hui, il y a dans l'économie mondiale, dans la spéculation, je comprends pas tout, quoi. À quoi ça leur sert ? Qu'est-ce qu'ils en font ? Mais je pense que c'est mon passé... d'ouvrier aussi, qui... J'ai pas oublié d'où je suis venu, voilà. Ça a du sens pour moi, je le fais, quoi, c'est tout.
France Culture, les pieds sur terre.
Laurent Laclergerie, président du groupe LDLC. LDLC, c'est un groupe qui vend de l'informatique sur Internet et en boutique. C'est 1000 collaborateurs et un chiffre d'affaires d'à peu près 700 millions d'euros. Alors, je pense que les équipes me trouvent, oui, comme un patron très sympa. J'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai pas voulu être pompier, j'ai pas eu d'autres rêves que d'être chef d'entreprise, de créer ma boîte, de créer quelque chose. Ça fait partie de moi. Je serais pas expliqué le vrai truc déclencheur, j'en sais rien du tout. Peut-être que Picsou est celui qui m'a inspiré pour avoir le coffre plein de pièces d'or. Mais je sais que quand j'ai vu l'histoire de Bernard Tapie à l'époque à la télé, c'est quelque chose qui m'a inspiré, en tout cas qui m'a poussé dans cette voie. Petit, j'étais pas du tout un leader parce qu'en fait, ma mère m'a appris à lire et à écrire très jeune. À 3 ans, je savais lire et écrire. Et m'a fait rentrer à l'école avec 1 an d'avance. Je suis de la fin de l'année, donc j'avais presque 2 ans d'avance à l'école. Donc j'ai pas été un leader. J'avais des amis, il y avait pas de problème, mais j'étais toujours le petit. Il a fallu me battre pour m'imposer, pour exister. Par exemple, pour avoir des amis, j'allais à la boulangerie en arrivant le matin, j'achetais plein de malabar. Et je les offrais à la classe. J'ai essayé, voilà, de trouver les trucs pour que les gens aiment bien me parler, aiment bien autre, parce que j'étais vraiment le petit. Après, quand j'étais dans les petites classes, j'amenais des malabars pour les offrir, autant quand j'étais en 5e, j'achetais des Scooby-Doo pour les revendre, parce que je les avais trouvés moins chers que le prix qu'on trouvait généralement, et du coup ça me permettait de gagner un peu d'argent. Et j'ai commencé comme ça à trouver des astuces pour gagner de l'argent, à vendre des fleurs aux voisins. Oui, c'est vrai que le côté économique, c'est partie des choses qui m'intéressaient déjà. je me souviens qu'à 5-6 ans, je lisais déjà les journaux économiques. Et un jour, j'avais lu que Walt Disney se payait $1 par mois. À côté, avait des dividendes énormes. Et je m'étais dit, bah, c'est sympa ce côté, je gagne peu sur l'entreprise. Par contre, je suis payé par le résultat de l'entreprise. Et moi, un jour, il faudra que je fasse la même chose. À 5-6 ans, je comprenais tout ça, parce que j'étais, en fait, ça me passionnait. C'était, mon père avait un petit portefeuille boursier. Moi, j'avais mon faux portefeuille boursier sur lequel je jouais contre lui. La majorité des jeux à laquelle je jouais quand j'étais jeune étaient des jeux de gestion de société. Et je cherchais toujours dans le jeu la combine pour battre le système. Des jeux que les gens ont pu connaître, c'était SimCity ou autre. Je cherchais pas à suivre les règles du jeu, je cherchais l'astuce. Ok, il y a des lois, mais moi je veux trouver les lois qui sont à côté, celles qu'on ne veut pas reconnaître. Je me souviens pas comment mon père était par rapport à la hiérarchie. Ce que je me rappelle par contre, c'est quand il invitait un de ses chefs à manger à la maison et qu'il passait toute la journée à préparer le repas, à préparer la table, et que c'était un événement parce que le chef arrivait. Et donc, il fallait que tout soit parfait, le repas, etc. Et je me disais, waouh, ça doit être important d'être chef parce que tout ce que mes parents font, parce que le chef vient, waouh. Donc, un chef, ça crée du stress. Mon père m'a offert mon premier ordinateur à 10 ans. Je me suis créé mes logiciels pour mes besoins, pour apprendre l'anglais, pour me faire mes dessins, pour... Il y avait ce côté création dont j'avais besoin tout le temps. Et je pense qu'entrepreneur, c'était parce que je savais que je pourrais créer et créer quelque part le monde comme j'avais envie qu'il soit moi. Et donc, j'ai créé ma boîte à 25 ans, juste après les études. À la base, pour vendre le logiciel que j'avais créé pour mon père, qui était un logiciel de devis que j'ai jamais vendu. Et je me suis retrouvé avec cette boîte qui était du coup une coquille vide. Et toujours dans ce défi d'apprendre et de vouloir comprendre, on est en 1996, on est au tout début d'Internet. Et je me dis... Eh ben, faut que tu apprennes à développer un site internet. Ça fait partie des choses que tu dois apprendre. Et c'est comme ça que j'ai lancé finalement ce qui est devenu LDLC par hasard. En fait, dans l'histoire de la société, il y a eu trois phases. Il y a eu les 10 premières années qui étaient le mode start-up où j'ai eu la société dont je rêvais, c'est-à-dire on ne se posait pas de questions, on avançait. J'étais le patron, il y avait quelqu'un en marketing, il y avait quelqu'un au truc, mais c'était une bande d'amis qui travaillaient ensemble. Il y avait un côté inconscient dans la gestion, on est monté jusqu'à 300 personnes, et il y avait zéro salle de réunion dans la société. On ne faisait jamais de réunion. En réalité, je pense que je me suis jamais posé la question du management en tant que management. Moi, la seule question que je me posais, c'est je vis une aventure, je m'amuse, je joue, et je dois jouer entre amis. J'étais dans ce mode, je continuais à faire les jeux que je faisais plus jeune sur l'ordinateur, sauf que cette fois-ci, je le faisais en vrai. Je jouais ma partie. Et ça marchait super bien. Et tout était génial. C'était une bande d'amis, c'était la boîte dont j'avais toujours rêvé. Et puis, on a eu un gros clash logistique, parce que la personne qui s'en occupait, j'avais totale confiance, a fait des erreurs et la boîte a clashé. Et là, je me suis dit, tu es arrivé dans la limite du modèle. On est devenu trop gros. Et je me suis dit, t'as plus le choix, va falloir recruter des gens qui savent. Et la société a complètement changé. Parce que forcément, quand on a recruté des gens qui venaient d'autres sociétés, avec des comités de direction, avec des boîtes qui fonctionnaient autrement, ils ont appliqué leur méthode. Et la société que j'avais créée a changé et est devenue cette société très structurée. Et j'ai vécu 10 ans de plus dans cette société, en mode, t'as pas le choix, t'as atteint une taille, la société continue à grandir, mais tu es obligé de vivre dans cette société. Et... est arrivé un livre que j'ai lu en vacances d'Alexandre Gérard, le patron qui ne voulait plus être chef, qui parlait d'entreprise libérée. Quand je parle d'entreprise libérée, ce que je veux dire, c'est que c'est une entreprise où en fait c'est la confiance qui domine et la hiérarchie est beaucoup moins importante. En général, il y a très peu d'hiérarchie dans une entreprise libérée. Parce que comme on se fait confiance, c'est pas besoin de contrôler, de hiérarchiser. Et c'est la boîte que j'avais vécue, c'est la boîte que j'avais vue fonctionner pendant 10 ans, sans savoir que ça correspondait à un modèle ou à un autre, mais c'était ma boîte. Et quand j'ai lu son livre... j'ai vraiment eu ce sentiment de la société que tu gères aujourd'hui, qui est devenue contrôlante, qui est devenue carrée, qui est devenue stricte, hiérarchique, c'est pas toi. Je gère pas la boîte que j'aime. Je me suis perdu en route. Et je me suis dit, faut que tu changes tout. Faut revenir à la boîte d'avant. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé vers les salariés pour leur dire, on est en bourse et on avait annoncé que dans 5 ans, on ferait 1 milliard de chiffre d'affaires. On va arrêter ses objectifs chiffrés. Dorénavant, on va penser à nous et on va passer à la qualité de vie au travail. Et ça devient la priorité dans la société. Et à compter de ce jour-là, tout ce que j'ai réfléchi devait aller avant tout dans le sens des équipes, dans les moyens de la société. Hein, j'étais pas en mode « je vais tout changer et on va vivre au monde des bisounours » parce que non, il fallait que la société gagne de l'argent, mais il fallait, moi, que de l'autre côté, je fasse le nécessaire pour que les gens se sentent le mieux possible. Et l'aboutissement de toutes les mesures qu'on a pu mettre en place, ça a été de passer l'intégralité des équipes à 4 jours de travail sur 32 heures et tout ça sans baisse de salaire. J'avais jamais pensé à la semaine de 4 jours. Est-ce que ça s'appliquerait chez nous ? J'ai calculé le truc en me disant, bon, c'est 9% de travail en moins, puisqu'il y a 32 heures au lieu de 35 heures. Donc, si tu le mets en place et que ça change rien, ça te coûte 9% de plus. Sans doute un petit peu moins. Donc, je m'étais dit, ben, il va y avoir un surcoût pour l'entreprise d'1,5 million d'euros par an. Elle peut le payer. Donc, tu vas le faire. Dans cette recherche de bien-être, pour moi, baisser mon résultat pour que les gens travaillent moins, ça faisait partie du jeu. Pourtant, on était en bourse et je savais que gagner moins d'argent, ça dévalorise l'entreprise. Mais c'est pas mon ambition que l'entreprise vaille le plus possible. Moi, la priorité, c'est que les gens se sentent bien. Donc, j'étais prêt à le faire. Et dans ma tête, je me disais, s'ils se sentent bien, de toute façon, à un moment ou à un autre, tu vas t'y retrouver quelque part. Ne serait-ce que dans le bien-être de venir tous les jours parmi des gens qui se sentent bien. Rien que ça, ça en vaut le coup. Et la bonne surprise, c'est que finalement, ça a super bien marché. La bonne surprise, bah, c'est que finalement, on est 1 an et demi plus tard et j'ai pas dépensé un centime. Les gens travaillent mieux en 4 jours et 32 heures qu'ils travaillaient en 5 jours 35 heures. Et quand je dis qu'ils travaillent mieux, c'est pas dans le sens ils font le travail qu'ils font avant en 5 jours. C'est que non, ils sont capables d'en faire plus en 4 jours parce qu'en fait, ils ont retrouvé un équilibre dans leur vie. Et ça, c'est la surprise que j'ai eue à la fin parce que je l'avais pas du tout anticipé. Alors, ce bénéfice énorme qu'on a fait, l'accroissement de la productivité qu'on a eu, on en aurait certainement retrouvé toute une partie sans la semaine des 4 jours. Mais on l'aurait pas eu autant parce que l'énergie qui est dans la boîte, les sourires au téléphone qu'entendent les clients, la façon dont les gens se comportent avec les autres à l'extérieur, toute cette image qu'on donne derrière, indirectement, de façon incontrôlée, parce qu'un sourire, c'est naturel, mais un sourire, ça séduit un client. Je pense qu'on n'aurait pas eu les mêmes retours. J'en suis même convaincu. C'est-à-dire qu'il y a une envie, il y a une âme qui existait dans la boîte, mais qui s'est démultipliée. C'est ça que je pense que crée la semaine de 4 jours. Un vrai équilibre qui, du coup, crée cette surperformance les jours où on est là, puisqu'en fait, on est reposé. Et je ne me suis pas arrêté à la semaine de 4 jours. C'est-à-dire que dans ce bien-être, je voulais que les gens se sentent bien à tout niveau. Et pour moi, par exemple, à tout niveau, c'est que la personne qui fait des colis est aussi importante que la personne qui envoie un email au client. Et pourtant, si on prend sur le marché du travail, bah, son salaire, c'est le SMIC. Et pour moi, c'était pas normal, parce qu'il fait partie de la chaîne de valeur. Donc, dans les mesures qu'on a mis en place, après, ça a été de passer le salaire minimum à SMIC plus 25%. Ce qui fait aujourd'hui, un salarié chez moi ne touche pas moins de 2050 euros brut par mois. Quel que soit le poste qu'il occupe dans l'entreprise. C'est le salaire minimum chez nous. Évidemment, tous ceux qui étaient au-dessus ont été augmentés pour pas que tout s'aplatisse à 2050. C'est-à-dire que j'ai augmenté largement plus de 50% des personnes, pour arriver à ce qu'on n'écrase pas les salaires. On peut se demander comment j'ai payé tout ça, mais en réalité, il y a une telle efficacité des gens qui se sentent considérés. Bah, c'est largement rendu en réalité dans la productivité qui est derrière. Ça reste économiquement viable. Je suis pas en train de détruire un modèle économique capitaliste, en contradiction du modèle de gauche qui voudrait être la totale redistribution des recherches. Moi, je cherche toujours à ce qu'il y ait cette ambition de pouvoir faire des choses, et pour ça, à des moments, faut gagner de l'argent. Je gagne 10 000 euros net par mois. Et je vis avec, ça me permet de me faire plaisir de temps en temps. C'est pas, je trouve pas non plus que c'est trop. Je pourrais me payer plus. Je pourrais avoir le double, triple, quadruple de salaire. La société a les moyens de me le donner. Je pourrais le faire, j'ai le droit, c'est moi qui décide pour le coup. Mais j'en vois pas l'intérêt. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de cette vie avec plus d'argent. Ça changerait pas ma vie, donc pourquoi je le ferais? Autant de laisser cet argent permettre de faire d'autres projets ou de le redistribuer. C'est pas incompatible d'être à la fois social tout en gagnant de l'argent. C'est-à-dire que socialement, je suis de gauche, économiquement, je suis de droite. Tout ça ne peut marcher que s'il y a une économie de marché derrière qui fonctionne. Pour moi, le modèle n'est pas incompatible. Mais on doit considérer les gens. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, j'ai trouvé un vrai sens à ce que je fais. Finalement, je suis qu'un pousseur de carton et mon métier n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça a balayé quelque part le reste. J'y passe la moitié de ma semaine à parler de ça parce que ça a beaucoup plus de sens que les produits que je vends tous les jours. Mais c'est compliqué d'expliquer aux gens que oui, j'ai réduit le temps de travail. Oui, je paye les gens mieux. Et oui, c'est beaucoup plus efficace, même si c'est contre-intuitif. Dès que j'en parle à un économiste, qui est la personne qui devrait me suivre, il me dit « ça peut pas marcher ». Mathématiquement, vous avez réduit le nombre d'heures, vous payez plus, votre entreprise ne peut pas gagner plus d'argent. Si, regardez les chiffres, vous êtes une exception. Ça ne marchera pas partout. Voilà. Non, on n'est pas une exception. Ce que j'ai fait dans la société, on peut l'appliquer à la société avec un grand S. Et si on l'applique, on changera la société. Et franchement, on sera heureux de vivre dans ce monde-là, tous et tous ensemble. D'ailleurs, je ne sais pas si ça doit être écrit sur le tableau qui est à côté, avec tous les remerciements des équipes, mais il y en a qui ont dû l'écrire.
Ça, c'est votre tableau de remerciements des salariés quand vous avez mis en place les 4 jours ?
C'est ça, c'est la CGT qui est arrivée un jour qui m'a dit « Laurent, on a un cadeau pour toi ». J'avais un cadeau, mais qu'est-ce que vous voulez me faire un cadeau ? Et ils ont sorti le paperboard, parce qu'ils ont fait ça sur un paperboard. Et je vais être honnête, j'ai versé 3 larmes ce jour-là, parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh, c'est beau ». Je pense que tous les patrons rêveraient d'avoir ce tableau. Il y a des cœurs, il y a des remerciements de partout, il y a quelle joie de travailler pour vous, enfin, même dans les mots, merci Lolo. Donc, il reste simple avec moi. Je pense que beaucoup de gens aimeraient voir tout ça. Et ça fait plaisir de se dire que finalement, on ne fait pas tout ça pour rien.
C'était Les Patrons Sympas, un reportage de Sophie Simoneau réalisé par Sylvain Richard avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en septembre 2022. Merci à Jean-Yves Glumineau, à Laurent de la Clergerie, à Isabelle Charconnet et à Emmanuel Geoffroy. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue-Sébastien.